Alors bienvenue à vous tous pour ce petit moment autour de la Bible, donc rendre visite. Alors je vous proposais Paul qui a besoin de visite, avec la deuxième lettre de Paul à Timothée. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle les lettres pastorales, les épîtres pastorales de l'apôtre Paul, qui ont été classées au bout de la collection des épîtres. Vous allez me dire, les épîtres, c'est un peu bizarre, elles sont triées. Comment elles sont triées, les épîtres de Paul? Elles sont triées par taille, vous voyez, c'est quand même rigolo. C'est les plus grandes d'abord, Romains, puis après, c'est très classé par taille. C'est un classement un peu rigolo, mais enfin bref, à la fin, c'est assez des lettres qui sont assez personnelles. Alors, l'authenticité de la main de Paul sont discutées, les gens disent, c'est pas de Paul, l'autre, c'est de Paul. C'est vrai qu'elles sont un peu différentes des lettres qui sont très théologiques, qui sont au début. C'est des lettres beaucoup plus personnelles. Bon, moi je trouve qu'elles pourraient tout à fait être de Paul. Et c'est compréhensible qu'elles aient un autre style, parce qu'on ne s'adresse pas pareil à un ami quand on envoie, par exemple, il envoie une lettre très théologique aux Romains, par exemple. C'est autre chose. Alors la lettre à Timothée, deuxième lettre à Timothée, c'est un peu comme un testament spirituel, finalement, c'est très émouvant, finalement. On a l'impression que Paul, il passe un peu le flambeau à Timothée, qui est un ami assez proche, avec qui il a pas mal bourlingué de gauche à droite pour évangéliser, et dans des moments difficiles. Alors, la personnalité de Timothée est un peu discutable. On peut dire pour certains que Timothée est un peu timide, un peu introverti, parce que au milieu, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, là je vous l'ai mis in extenso, la deuxième lettre à Timothée. Bon, on ne va pas tout lire aujourd'hui, mais c'est plutôt un peu pour l'apprendre dans son ensemble. Au milieu, il y a marqué verset 7, chapitre 1, verset 7, « C'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte, haut les cœurs, vas-y, fonce. » On pourrait dire, donc il est timide en fait. Peut-être. Il y a autre chose qui irait dans ce sens. Dans 1 Corinthiens 16, 10, il y a Paul qui annonce aux Corinthiens que Timothée va arriver leur rendre visite. Et il dit, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que donc personne ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Donc on pourrait dire, Timothée c'était un jeune, un peu timide, un peu machin, et donc il pourrait avoir peur. Il l'envoie un peu au casse-pipe chez les Corinthiens qui se tapaient dessus, qui se disputaient entre ceux qui étaient pour Paul, ceux qui étaient pour Apollos, ceux qui étaient plutôt charismatiques, d'autres plutôt intello. En fait, je ne suis pas sûr, peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, en tout cas, ce Timothée, on le connaît, il apparaît dans le deuxième voyage de Paul, il lui est recommandé par les chrétiens de Lystre et d'Iconium, et donc il va accompagner Paul. Paul va beaucoup s'appuyer sur lui, et par exemple, quand il est chassé de Thessalonique par une foule en furie, Paul fuit, il va fuir la ville, mais il laisse derrière Timothée pour faire que les églises qu'ils ont pu créer ensemble dans Thessalonique, puissent être réconfortées, qu'elles puissent tenir malgré ce moment difficile. Donc on imagine quand même, si c'est quelqu'un de timide, un peu introverti, un tout jeune garçon, quand même, il faut tenir bon dans des circonstances très difficiles. Paul repose sur lui, donc peut-être quand même que c'était pas si un petit jeune homme introverti que ça. Voilà. Puis on voit que il l'envoie en mission, il l'envoie. Alors on peut comprendre pourquoi effectivement dans cette lettre Paul est à Rome, semblerait-il. En prison, donc c'est la fin un peu de son parcours, ou en tout cas il a déjà subi, on en parle au milieu, déjà un premier procès. Donc c'est vraiment, ça s'approche de moments quand même difficiles à Rome. On ne sait même pas d'ailleurs si Paul va être exécuté à Rome ou pas, c'est discutable, discuté. Peut-être qu'après il va en Espagne et qu'il meurt après, enfin on n'en sait rien. Toujours est-il que là, on a comme un testament spirituel. Il lui dit, rappelle, voilà ce que tu as reçu, ce que je t'ai transmis, et ben, garde-le, transmets-le à ton tour. Alors on voit Paul dans ce testament spirituel, finalement, un Paul qui est fort et qui est héroïque même. On le voit par exemple dès le début, Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Et puis donc il reçoit de la force, je vous ai lu le passage, on a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hein. On le voit par exemple 1.12, pour cette cause, la cause de l'évangile, donc j'endure ces souffrances mais j'en en ai pas honte car je sais en qui j'ai cru. Donc on parlait de Dieu qui nous rend visite, donc c'est une expérience effectivement, c'est pas simplement... J'ai des idéaux élevés et j'y crois, c'est je sais en qui j'ai cru, c'est comme une expérience en fait de Dieu. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusque ce jour-là. Alors le dépôt, c'est pas très clair, c'est le don, on pourrait dire le don de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné, a mis dans notre cœur comme personnalité profonde, comme évangile, comme grâce, sentiment de sa propre dignité, de ses talents personnels, voilà. Et donc, il sent vraiment cette puissance de Dieu qui le réconforte, et puis cette confiance que même finalement, s'il faiblit, bah, Dieu gardera l'essentiel de sa personne. Voilà. Alors, on a aussi, par exemple, 2.10, « Je supporte tout hein. ». Je supporte tout à cause des élus afin qu'ils obtiennent la foi en Christ Jésus. Donc il est capable de tout supporter. Et puis 3.11. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre ? Bonsoir Michel, il y a une petite feuille sur la chaise en entrant. Il y a une petite feuille là. Michel, il y a une petite feuille sur la chaise.
Ah bon, merci.
Et le Seigneur m'a délivré de tout, en fait. Donc il y a cette confiance, que cette expérience, que Dieu l'a délivré, l'a soutenu, l'a réconforté. Voilà. Alors, pourtant, malgré effectivement cette expérience de Dieu, il a besoin d'être visité. Voilà. Alors on le voit par exemple en 1.15, on le voit finalement regretter d'avoir été abandonné, voilà. Et alors bon, bien sûr, c'est aussi une expérience humaine, hein. Même si on a la foi, etc., ben, quand il y a des amis proches qui vous laissent tomber comme une vieille chaussette, ben, on encaisse dur quand même. Donc il y a cette dimension très humaine, affective, de confiance, de fidélité. Mais quand même, c'est dur, voilà. On voit qu'il est reconnaissant après à Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes, donc d'un pauvre prisonnier mis au rebut. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché partout avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé, ce qui n'était pas forcément évident. Surtout peut-être dans des contextes de, bon, peut-être pas encore de cette époque-là de persécution contre les chrétiens, mais bon, si on s'intéresse à un prisonnier, bon, on ne peut pas s'imaginer peut-être comme dans notre pays où il y a une liberté importante, mais imaginez, je ne sais pas, dans des pays un peu, où il y a moins cette liberté, quelqu'un qui est prisonnier pour cause de conscience, prisonnier politique, si on s'intéresse à lui, tout de suite, on est quelqu'un d'un peu suspect, vous voyez ? Beaucoup d'empressement, il m'a trouvé, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là, au moment du jugement peut-être, je ne sais pas très bien comment on peut. Hein. Donc on sent que Paul, ben, quand même, dans ce moment difficile, il a besoin de secours, hein, d'aide, de réconfort, et puis il encaisse dur, ben, ceux qui l'ont abandonné. Alors on le voit aussi au chapitre 4 à la fin, Démas m'a abandonné, donc c'est 4.10, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Bon, ben, ça veut dire qu'il en a eu marre d'aller courir peut-être prendre des risques, bon, en tout cas, pour former des églises, pour aller prêcher. Lui, il s'est dit, bon, écoutez, maintenant, j'ai fait ma part. Je vais rester tranquillement avec ma famille, mon petit boulot, mes petits loisirs, ça sera bien comme ça. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence, lui, est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Ça, ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné le machin, le boulot, mais bon, ça veut dire qu'ils sont loin à d'autres tâches pour s'occuper d'autres églises, et puis voilà. Luc est seul avec moi. C'est sympa, il aurait pu dire que je suis seul, et il n'y a que Luc avec moi. Bon. Luc, alors, c'est l'auteur de l'Évangile selon Luc, des Actes des Apôtres. Effectivement, c'est un... Bonsoir. Il y a une petite feuille quelque part. Hein. Elles sont où les petites feuilles? Elles étaient sur la chaise. Ah ben Michel les a mis là-bas au bout. Donc, et puis il y en a un autre, c'est le forgeron qu'il a abandonné. Je sais plus où il parle du forgeron. Hein. Quoi? 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Bon, ça sonne un petit peu pas sympathique. Ça veut dire, bon, moi, je ne vais pas me charger de me venger personnellement. Ça, il y a Paul, il dit ça aussi dans la lettre aux Romains. Hein, surmonte le mal par le bien. Et puis, c'est Romains 12, je crois. Et puis, il dit, écoutez, vous ne prenez pas pour le chevalier blanc. Bon, c'est le Seigneur qui est juge, qui réglera les comptes. Et ça, ce n'est pas à nous à solder les comptes. Bon, pff, écoutez, c'est comme ça. Hein. Et puis 4-16, hein. Dans ma première défense, c'est pour son premier procès finalement. Personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, et puis donc il a trouvé là la force dans le spirituel de pouvoir faire face à son procès et parler avec, donc, avec force et sagesse pour peut-être même témoigner de l'Évangile auprès de... des autorités romaines.
S'il vous plaît, le Marc, prends Marc, c'est bien le Marc de l'Évangile.
Il est
après,
où le Marc
11, Luc est seul avec moi, prends Marc.
4-11. Oh, ben oui, je pense, oui tout bien, à fait. Oui, c'est possible.
Donc il est réconcilié.
Oui. Alors effectivement, il s'était un peu disputé, peut-être qu'à la fin, il s'est réconcilié, c'est bien possible. Hein. Oui, tout à fait. Ben, c'est bien. Car il m'est eu fort utile pour le service. Voilà. Ouais. Et puis donc, il souffre d'être isolé, d'être abandonné, bon, bien sûr. Hein. Il est reconnaissant de l'aide, de la visite d'Onésiphore, de la présence de Luc. Et puis il supplie donc Timothée de venir. Et c'est vrai que c'est quand même une humilité aussi, hein, de reconnaître par rapport à l'autre qu'on a besoin de lui. C'est pas évident, parce qu'on aimerait être celui qui est fort, qui apporte aux autres. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'humilité à se laisser, à reconnaître qu'on a besoin de l'autre, qu'on a besoin d'être aidé, accepter d'être aidé, c'est pas du tout évident. Accepter que les gens vous fassent, par exemple, je sais pas, vous rendent service, vous offrent quelque chose sans... se sentir humilié par le service, le don de l'autre, c'est pas évident en fait. Donc là on le voit, hein, donc il supplie Timothée de venir. Alors on le voit au chapitre 4, hein, à la fin, 4-9, tâche de venir au plus tôt vers moi. Et puis il a confiance parce qu'au 13 il dit « Quand tu viendras ?» Donc il suppose que c'est comme si c'était déjà fait. Mais quand même, il met au 4-21 tâche de venir avant l'hiver. Donc il sait que c'est pas forcément évident qu'il vienne tout de suite. Voilà. Donc il a quand même besoin de ça. Mais c'est vrai que quand même, bon, fondamentalement, bien sûr, hein, ce qui est essentiel pour lui, c'est quand même la présence de Dieu, ça n'empêche pas. Hein. Sans cesse, il y a ce lien avec Dieu qu'on voit tout au long de ce passage, hein, où il dit que c'est vraiment pour lui l'essentiel. C'est pour lui l'essentiel d'avoir cette aide de Dieu qui est là. Ça n'empêche pas. Et c'est vrai que... au verset, donc un, par exemple, c'est un. Où est-ce que c'est verset. Bon, ne serait-ce qu'au début, hein, Paul, quand se dit Paul, Paulus, ça veut dire le petit, l'insignifiant, le faible en latin. Avant, il était Saul ou Saül, c'est donc ses références au grand roi, puissant, arrogant. Donc il a cette humilité, il est fait apôtre et serviteur de Dieu au début par Dieu. Donc c'est immense finalement quand même, hein, comme dignité, comme responsabilité. Il dit que tout ça, ça vient de Dieu, qui est source de grâce, de miséricorde, de paix. Tout ça, c'est quelque chose qui sans arrêt revient dans l'Épître. Hein. Je vous ai lu les passages où, effectivement, il disait qu'il avait été soutenu par Dieu, que le Saint-Esprit donc habite en nous, donc ça c'est 1,14, que la puissance de Dieu, 1,8, voilà, j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur, donc tout ça, hein, c'est pratiquement, ça y est deux fois par paragraphe, hein, c'est ce Dieu qui est là, qui est puissant, qui lui donne de la force, hein. Au début du chapitre 2, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Donc vraiment, il s'en voilà. À la fin de ce petit paragraphe 2,7, le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Donc c'est vraiment pour lui, c'est quand même quelque chose qui revient sans arrêt. Hein. Les passages que vous avez dit, le Seigneur m'a délivré de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, de tout ça. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une expérience de Dieu qui est très fort, mais il a quand même besoin de la présence humaine, de l'aide humaine. Alors ça, je trouve que c'est quand même important au point de vue de la théologie, si vous voulez, même de la foi chrétienne. Peut-être par rapport à d'autres spiritualités où l'essentiel, c'est le spirituel et où pratiquement... les liens de ce monde sont là, temporaires, à relativiser. Je ne crois pas que ce soit le cas de la foi chrétienne, où on a quand même une théologie de l'incarnation. C'est-à-dire que, comme on dit dans le début de l'évangile selon Jean, la parole de Dieu s'est faite chair, a été faite chair. Elle s'est incarnée d'une manière visible en Christ. C'est pas quelque chose d'éthéré. Ou alors quand Jésus dit... L'essentiel, c'est d'aimer Dieu et puis aimer son prochain comme soi-même. Et les deux commandements sont semblables, vont l'un avec l'autre, sont indissociables l'un de l'autre. Donc, oui, bien sûr, on a l'aide de Dieu, il y a le spirituel, il y a cette force qu'on peut recevoir d'une manière plus ou moins diffuse, peut-être, ou d'une manière éclatante, parfois dans la prière, dans l'expérience spirituelle, dans la méditation des Écritures. Mais ça n'empêche qu'on a besoin de l'aide des autres, voilà, de la présence des autres. Voilà.
Moi, je pense que l'assistance de Dieu peut passer par les autres aussi.
Alors voilà, absolument, c'est ce qu'on voit ici, en fait, tout à fait, ça s'incarne aussi à travers les autres. C'est pas que à travers les autres, mais c'est d'une manière essentielle aussi à travers les autres. Voilà. Donc il y a la ligne directe, le Dieu qui nous rend visite, et je crois qu'on peut s'ouvrir à cette visite de Dieu dans notre existence, même si on pense n'en avoir jamais fait l'expérience. On peut le garder comme une possibilité, parce que bon, c'est pas toujours aussi évident que si Dieu nous tendait une table de pierre du haut d'un nuage, si vous voulez. C'est rarement comme ça. Mais ça peut être d'une manière plus diffuse. Donc oui, il y a cette visite de Dieu, mais comme vous le dites, il y a aussi Dieu qui nous rend visite à travers les autres. Alors ça se voit quand même là-dedans. Mais alors bon, il y a quand même la certitude qu'en définitive, c'est quand même Dieu qui nous garde. Mais on voit quand même que si on ne participe pas, s'il n'y a pas cette participation de l'homme, eh bien ce dépôt pourrait, j'allais dire, fuir. Il pourrait s'éteindre, il pourrait s'endormir. Alors ça, on le voit, par exemple, il y a... on va le voir sans cesse aussi dans cette lettre. Le plus caractéristique, peut-être, hein, c'est 1.6. Il y a Paul qui dit à Timothée, « Je t'exhorte à ranimer, à réenflammer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc, il a reçu par l'imposition des mains, c'est... Allez dire, on pourrait, c'est comme un baptême d'adulte, sauf que Paul ne baptisait pas pratiquement. Donc ça relativise nos rites, si vous voulez. Mais c'était une imposition des mains qui était...
Qui baptisait à l'époque, là. Il y avait le baptême déjà.
Donc il y avait le baptême, mais c'était un baptême de Jean-Baptiste qui existait. Vous voyez, ouais. C'était un baptême de lavage du péché, de plonger dans la grâce et le pardon de Dieu. Donc c'était plus un baptême, j'allais dire, c'est pas un baptême négatif, mais... Vous voyez, c'est un baptême de conversion qui vient valoriser une conversion de la personne. Alors que là, l'imposition des mains, vous voyez, c'était un geste de création, finalement, parce que les mains, c'est l'organe de la création. C'est un geste très ancien qu'on voit même donc, dans les Anciens Testaments, dans les prophètes, dans la bénédiction, par exemple, d'Isaac sur Jacob, hein, ou de Jacob sur... sur les enfants de Joseph, ou je ne sais plus quoi. Donc, c'est vraiment un geste très ancien de transmission de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. C'est un supplément de création, hein, une étape supplémentaire dans l'évolution de la personne. C'est ça que vient dire ce geste. Mais là, le baptême chrétien, si vous voulez... c'était la difficulté de la première église, c'est que Jésus n'a pas fondé une nouvelle religion. Il était juif libéral pratiquant, si je puis dire. Mais il a renouvelé la foi, et en ouvrant ce qu'était le boulot attendu du Messie d'ailleurs, hein, en ouvrant la foi aux non-juifs, en centrant aussi sur vraiment le spirituel, la relation personnelle avec Dieu, l'alliance personnelle cœur à cœur de Dieu avec la personne, il relativise le temple, les sacrifices, les règles alimentaires, la cacheroute, la religion religieuse, quoi, finalement. Donc les premiers chrétiens, ils se sont trouvés un peu embarrassés. Est-ce qu'on continuait à faire la religion juive ? Oui, pour certains. À l'époque, on va le voir encore. Hein. À la fin, vous voyez, où est-ce que c'est il dit à Timothée de quand tu viendras, hein, c'est 4:13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Le manteau, c'est phylones en grec. Le problème, c'est que phylones, ça n'existe pas le mot grec, ce mot grec. Donc on pense que c'est le décalque, si vous voulez, grec de téphilim. Les téphilim, c'est le châle de prière. Vous savez, avec les tzitzit, les petites pendeloques qui symbolisent les commandements de la loi. Donc c'est le châle de prière de l'apôtre Paul. Son châle de prière, ben, pour la prière juive dans la synagogue. Et puis les livres, surtout les parchemins. Bon, le parchemin, c'était quand même de luxe à l'époque. Hein, parce que d'habitude, c'était plutôt des papyrus. Les papyrus, c'était moins cher. Le parchemin, bon, c'était de la peau... Donc, si vous voulez, s'il fallait faire une Bible complète, il faut trucider 12 troupeaux de moutons, vous voyez. Et puis, le parchemin, bon, c'était un peu épais, donc on prenait des fois le vélin, c'était de la peau de fœtus de veau, en fait, de veau mort-né ou de veau avorté. Donc, c'était de la peau extrêmement fine, qui était presque translucide, ça valait fortune, si vous voulez. Donc... Et le livre dont il parle à l'époque, les livres, les écritures, hein, c'est des extraits, des écritures de la Bible hébraïque. Ça ne peut pas être autre chose. les parchemins. Alors ça pouvait être déjà des recueils de paroles de Jésus, peut-être. On voit que Paul cite quand même l'évangile selon Luc. Alors c'était pas peut-être à l'époque l'évangile selon Luc rédigé, mais c'était déjà les compilations que Luc, disciple de Paul, commençait à rassembler et qui donnera peut-être plus tard l'évangile. Je sais pas, hein. Donc on voit là Paul, bon, juif pratiquant finalement, avec ses téphilémes, son phylonès de manteau. Donc voilà, il est parti peut-être en courant hein, de Troas, je ne sais pas. Donc les premiers chrétiens, ils étaient juifs pratiquants, on les voit, les apôtres montaient au temple, on les voit aller dans les synagogues. Mais ensuite, avec l'ouverture aux païens qui va grandissante, ils ont beaucoup discuté, et puis Paul finalement, et puis Pierre aussi, et Jacques, qui était le chef de l'église, va être d'accord. Ils vont pas imposer la loi juive aux païens qui se convertissent de plus en plus grand nombre. Donc finalement, il va y avoir des réunions pour disciples du Christ, avec mélange de juifs, de disciples de Christ, de Jésus, et puis des païens disciples de Jésus. Ça sera plutôt le mercredi et le dimanche. Et puis, les juifs vont continuer à aller à la synagogue, en fait, tout en étant disciples de Jésus, pensant que Jésus est le Messie attendu. D'ailleurs, quand il met apôtre du Christ Jésus, vous voyez, Christ est en premier, donc apôtre du Messie. C'est très juif de mettre ça comme ça, du Messie qui, en fait, s'est incarné dans la personne de Jésus. Mais voyez, c'est déjà une façon juive de présenter le... Voilà. Alors ces premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas imposer la circoncision aux païens. Mais la circoncision, c'est un super beau geste. C'est un geste d'alliance qui est donné unilatéralement un enfant qui comprend rien à rien. Donc c'est vraiment beau, parce que ça veut dire que Dieu fait alliance avec la personne, même si la personne comprend rien. C'est un geste vraiment d'alliance inconditionnelle, comme ce qui est donné à Abraham. Avant même qu'il ait rien fait, tu es béni, tu seras bénédiction. Donc c'est pas l'alliance du donnant-donnant, voyez. Bonjour monsieur, il y a une petite feuille quelque part.
Là.
Ah, là, sur le petit bras. Bon. Non, je vous en prie. Ouais. Donc, la circoncision, ils ne vont pas l'imposer aux païens. Bon, c'est vrai que je ne sais pas, imaginez, moi, si je devais me convertir au judaïsme, c'est pas quelque chose qui me tenterait tellement, la circoncision. Je le sens moyennement. Mais il n'y a pas que ça, si vous voulez. Il y a le fait que, dans le christianisme, il y a égalité entre l'homme et la femme, du vivant de Jésus, si vous voulez. Et que les femmes, pour des raisons purement techniques, sont dispensées de la circoncision. C'est un peu ennuyeux que les hommes puissent être circoncis, pas les femmes. Donc comme signe de cette alliance donnée a priori, ce qui plaisait bien aux chrétiens dans l'évangile du Christ, cette bénédiction qui est donnée a priori à la personne humaine sans même qu'elle ait rien demandé. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ils ont fait ce geste d'imposition des mains, avec l'eau finalement, mais plus une eau qui est signe de lavage comme avec Jean-Baptiste, mais qui est un eau qui est signe de bénédiction, parce que c'est les deux en fait dans la Bible. C'est un signe qui est ambigu, c'est à la fois un signe de mort de la vie ancienne, comme dans le déluge, comme la traversée du Jourdain pour sortir d'Égypte. C'est un signe de lavage d'une vie ancienne, mais c'est aussi l'eau de bénédiction qui est l'eau qui arrose le désert et qui fait fleurir le désert. Donc l'eau, c'est un signe à la fois, un signe de mort et de vie. Donc le baptême chrétien, c'est plus l'eau comme signe de vie, comme imposition des mains, comme bénédiction qui tombe sur nous, comme grâce de signe de la grâce de Dieu. Plus que comme une purification d'un être ancien qui serait sale, vous voyez. C'est beaucoup plus positif que ça. Donc, rapidement, il y a eu ce baptême chrétien qui n'était pas le baptême de Jean-Baptiste, mais qui était... Alors ici, on en voit finalement l'origine dans cette imposition des mains sèches, sans eau, mais qui est déjà signe de la grâce de Dieu, finalement. Mais... signe de l'Esprit-Saint qui est donné. Alors, on a l'impression, vous voyez, tu as reçu par l'imposition de mes mains le don de Dieu. Donc il y a le signe efficace, vous voyez, c'est un signe efficace. Nous, dans le protestantisme, on ne le dirait pas tellement, c'est quelque chose qu'on voit plus dans le catholicisme, comme quoi, vous voyez, la vérité est des fois plus complexe que ce qu'on veut bien dire chacun dans son église, si vous voulez. Il y a le signe de l'imposition des mains a été efficace pour donner les dons de Dieu à Timothée. Donc c'est ce que vous disiez, madame, c'est que là, finalement, ça passe par un geste humain. Le don de Dieu va passer par un geste humain donné à l'autre. Alors bien sûr, ça vient quand même de Dieu, mais il y a besoin peut-être de ce vecteur humain pour le transmettre. Et puis, il y a besoin de la participation, même si le don de Dieu est là. Donc le don de Dieu, le don, c'est charisme. On connaît le charisme, le charisma. Le charisme, c'est la grâce. Hein. Quand au début, il y a la grâce. C'est charisme, et le charisme, c'est le don, donc c'est le fruit d'une gratuité, d'un don. Mais quand même, c'est un don, c'est un charisme, c'est gratuit, mais quand même, il faut le réenflammer. C'est comme une potentialité en nous qui a besoin d'être... voilà, donc il y a besoin... Ça peut passer par la participation d'un autre, et il y a besoin de notre participation pour l'activer, quoi, le remettre sur le dessus, pour le rendre actif, puis l'enflammer. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, c'est quand même compliqué, vous voyez. Donc, Paul le rappelle, si je le laisse éteindre, quand même Dieu sera assez puissant pour garder ce don, vous voyez. C'est ce qui est marqué un peu dans 1.12, vous voyez. Il y a la souffrance, il y a les difficultés, peut-être, vous voyez, mais peut-être ça peut m'amener à fuir, comme on fuit, je ne sais plus, l'autre qui a fui, qui a suivi l'amour de ce monde. Il dit, ben, ça pourrait peut-être m'arriver, comme des masses. Hein. Mais quand même, je suis persuadé, dit Paul, que Dieu a la puissance de garder mon dépôt, de garder ces charismes qu'il a reçus en lui, cette capacité de foi, d'espérance et d'amour, dira-t-il dans 1 Corinthiens, si vous voulez. Mais quand même, il y a besoin de cette participation de l'homme pour le... Et donc, il a besoin aussi de soutien des autres. Et donc, on va dire le soutien de Dieu, mais qui peut passer à travers les autres. Et lui, quand il est privé de soutien des autres, dans ces circonstances difficiles, même Paul se sent un peu faiblir. Hein. Il en souffre, il se sent faiblir quand même. Même s'il a cette confiance que... Et donc c'est ce qu'il appelle... sans arrêt, vous voyez, c'est pas un esprit de timidité qu'il t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est assez beau comme résumé quand même, non? C'est quand même sympa. Ou au début du chapitre 2, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et puis il y a l'idée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Donc là, c'est le début du chapitre 2, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc vous voyez que il y a cette transmission, vous voyez, qu'il y a cette transmission. Alors bien sûr, Dieu peut parler directement au cœur de chacun, mais quand même, c'est plus facile quand ça passe par d'autres. Donc c'est à la fois les deux, si vous voulez. Hein. En même temps, le Seigneur t'enseignera toutes choses. Je ne sais plus où on avait vu ça, c'était... 2.7, le Seigneur te donnera l'intelligence en tout, ben, ça n'empêche que quand même il faut qu'il garde l'enseignement qu'il a reçu de Paul, qu'il a reçu des autres, hein. C'est les deux finalement, hein. C'est les deux. Alors quand on voit le petit poème qui est de 11, 12, 13, hein. Il y a un petit poème qu'écrit Paul, qui est assez rigolo, je trouve. Hein. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, avec Christ, nous vivrons aussi avec lui. Donc ça, c'est peut-être un peu la référence, effectivement. C'est quelque chose qui est assez cher à Paul, qu'on retrouve beaucoup chez les luthériens, plus que chez nous autres. Hein. L'insistance sur la croix, vous voyez. Nous, on n'aime pas trop, finalement. Je trouve ça un peu morbide, un peu triste. Il n'y avait pas de croix dans les temples protestants réformés juste dans les années, jusqu'après la Première Guerre. En fait. Celle qui est dans l'oratoire, c'est 1930. Si c'était aujourd'hui, on la mettrait sans doute pas, si vous voulez. Mais c'est l'idée, donc ça c'est assez cher à Paul, c'est qu'on est mort, on est crucifié avec Christ, donc l'homme ancien finalement, et qu'on ressuscite à une nouveauté de vie avec Christ. Voilà. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Bon, ça c'est un peu, ça pourrait passer. Ça pourrait passer un petit peu, peut-être pour du chantage, hein, non ? C'est un peu limite. Hein. Sauf qu'il y a le verset 13. Si nous sommes infidèles, ben, il y a marqué, lui, il va nous abandonner. C'est symétrique, vous voyez ? Ben non, lui, il va demeurer fidèle, par contre. Hein. Car il ne peut se renier lui-même. Donc c'est sa nature à Dieu d'être fidèle, point. Donc il sera, c'est ce que je vous disais pour l'Alliance, il va être fidèle même unilatéralement. Donc il n'y a pas marqué, si vous êtes infidèle, Dieu va vous envoyer à la mort avec des souffrances atroces pour les siècles des siècles, avec des diables qui vous piquent les fesses avec des fourches un peu tous les jours. Donc il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué non. Lui, il demeure fidèle parce que c'est sa nature, il est comme ça, on ne se refait pas. Donc il va continuer à nous garder. Voilà. Et ça c'est rigolo, vous voyez, parce qu'à la fin, c'est comme une pirouette. Qui dit oui. Alors, c'est intéressant parce que ce petit poème, si vous voulez, il essaye de dire en même temps ben, qu'il y a quand même un enjeu dans la manière dont on se comporte dans cette vie, dont on se soutient les uns dans les autres, dont on est soutenu, dont on garde, dont on travaille sa foi, sa réflexion, machin. Il y a quand même un enjeu de vie et de mort, c'est important. Mais que bon, ne dramatisons pas non plus, Dieu est plus grand pour nous garder de toute façon. Mais quand même, c'est important. Il essaye de tenir les deux. Et je crois que dans l'Évangile, on a souvent se tenir les deux. Jésus, sans arrêt, il annonce la grâce de Dieu. Il dit, bon, de toute façon, tes péchés sont déjà pardonnés. Cette confiance que Dieu est comme un berger qui, de toute façon, ira chercher même le perdu des brebis perdues et que finalement il finira toujours par retrouver celui qui cherche. Donc dans un sens, tout est déjà donné, on est sûr d'être sauvé, sûr de la vie éternelle, machin. Mais quand même, il y a un appel sans arrêt en Jésus à la conversion, à mettre le meilleur sur le dessus, à vivre du meilleur, à être cohérent avec ce qui nous donne la vie, cohérent avec ce en quoi on croit, ce que Dieu nous met dans le cœur. Enfin bref, vous voyez, c'est à la fois les deux, finalement.
Il ben, dit que les péchés te sont pardonnés, mais il continue, va et ne pêche plus.
Ta foi t'a sauvé, va et ne pêche plus. Voilà, donc il y a quand même cet appel à la mise en cohérence dans sa vie, vous voyez. Et oui. Et puis, à travers le ta foi t'a sauvé, il y a... La foi de l'homme, c'est pas une œuvre qui mérite, qui achèterait quelque chose qui est donné gratuitement. Il y a dans certaines églises, on peut dire, voilà, alors Dieu, il offre par grâce le salut. Il est là posé devant nous, il faut s'en saisir. Donc, si on s'en saisit pas, ben on l'a pas. C'était cadeau, mais on n'a pas pris le cadeau, donc on l'a pas. Moi, je trouve que c'est un peu ennuyeux parce que ça veut dire que l'amour de Dieu serait limité par notre capacité à aimer nous-mêmes, vous voyez. La grâce de Dieu serait limitée par notre capacité à avoir la foi. C'est un peu ennuyeux, parce que c'est un Dieu qui est quand même qui est à la remorque, si vous voulez, dont l'amour est plafonne, il y a une sorte de plafond de verre qu'est notre propre capacité à aimer Dieu, le prochain, etc. Ça m'ennuie un peu.
Mais c'est la part de liberté de l'homme aussi.
Il y a la part de liberté, mais moi, à mon avis, cette part de liberté, elle joue sur les décrets d'application, elle joue sur la manière...
Oui, c'est ça.
Sur la manière dont ça va s'incarner dans notre existence, vous voyez. Mais l'amour de Dieu, non, il nous garde, il nous garde. Comme une, je dirais, un père, une mère parfait, même avec des enfants qui sont bien loin d'être dignes de l'amour qu'on peut leur donner, parfois, des fois c'est l'inverse, hein, mais... Mais la vie est compliquée. Mais un père et une mère parfaits, il va garder l'amour pour ses enfants. Moi, je l'ai vu pour deux cas, par exemple, de personnes qui sont des monstres, qui ont des comportements monstrueux, qui sont en prison pour assassinat horrible, pédophilie, massacre d'enfants, avec des parents, des frères et sœurs qui viennent quand même les visiter en prison et qui disent « bah oui, c'est horrible, mais quand même, c'est notre fils, oui. » Ah oui. Ah, pas toujours, hein. On fait comme on peut après, hein. Je ne dis pas qu'il faut le faire, on fait comme on peut, mais c'est des choses qui arrivent. Donc l'amour de Dieu, il est assez grand, mais c'est ce que nous dit Jésus, Dieu, il aime même ses ennemis, il bénit ceux qu'il persécute, etc. Donc oui, il y a bien la grâce de Dieu, c'est une grâce, c'est un charisme. Charisme, c'est la grâce. C'est comme ça. Et la grâce, la miséricorde et la paix, vous voyez ? C'est ce qui est donné au début. Ouais. La grâce, par définition, c'est gratuit. La miséricorde, c'est charis, c'est chen en hébreu, c'est une sorte de charme irrésistible, vous voyez. On pourrait dire c'est la tendresse maternelle, la mère. Bonjour madame. Il y a une petite feuille si vous voulez. Bonjour madame. Donc à la limite, Dieu n'y peut rien. On a un charme irrésistible et il se laisse embarquer par... malgré lui, finalement, par sa propre nature. C'est ce qu'il dit. Hein. C'est la nature de Dieu. Hein. Si nous le renions, lui est renié. Hein, non, il ne peut se renier lui-même. C'est ça la nature de Dieu, c'est de nous aimer, de nous garder. Et il n'y peut rien. C'est comme ça. On pourrait dire que c'est la liberté de Dieu, mais c'est même peut-être pas sa liberté à lui. C'est sa nature. C'est le charme irrésistible de la charis de Fred. La miséricorde, c'est... La miséricorde, c'est Eleos, ou la recède de Dieu, c'est l'amitié, c'est une sorte d'amitié, c'est beaucoup plus réciproque peut-être. Mais là encore, hein, c'est comme on aime un ami, si on aime vraiment son meilleur ami, bon, même s'il n'est pas parfait... l'amour va être plus fort que ça, normalement. Sauf quand on... Voilà, les amis peuvent nous abandonner, hein, comme le forgeron ou comme l'autre qui en a marre d'être au boulot. Hein. Mais bon. Et puis la paix, Irénée, hein, comme Irénée, la colombe, hein, c'est le shalom hébreu, c'est beaucoup plus, si vous voulez, que la paix intérieure ou la paix entre nous. C'est... un état de stabilité, d'aboutissement de notre évolution. Ça va avec l'imposition des mains, ça poursuit une évolution, mais à une évolution, à un moment où il y a une sorte d'accomplissement de notre être qui est donné, voilà, par Dieu. Et tout ça, c'est un don. Donc on a, mais vous voyez, ça existe, c'est là, mais il faut l'enflammer, il faut le rendre actif, le rendre puissant dans notre vie. Et pour ça, les autres participent finalement. Hein. Ce dépôt, hein, ce don, ce don de Dieu, c'est presque un concept, c'est pas un concept tellement d'Ancien Testament, cette idée de dépôt sacré qu'on aurait reçu de la part de Dieu. C'est presque un peu de la philosophie grecque, avec l'âme, si vous voulez, qui est quelque chose de divin, qui est donné dans une chair qui est quand même mauvaise. Ici, non, la chair est bonne, finalement. C'est un don de Dieu, une bénédiction, mais il y a ces dons qui sont une façon d'être, plus que quelque chose qui serait versé dans un corps. Vous voyez, c'est... quelque chose qui active, qui rend brûlant, qui rend vivant notre chair, et qui peut en faire finalement comme un ange, hein, une capacité à être aussi vecteur des dons de Dieu pour d'autres. Donc il a un besoin désespéré de visite, notre apôtre Paul, finalement, hein. Il a un besoin désespéré de visite, et voilà, on le voit au début de sa lettre, 1-4, hein, ou 1-3. « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. Je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour, car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Donc c'est quand même très émouvant, si vous voulez, cette lettre de Paul en prison, voilà, dans les procès, en danger de mort. Donc, hein, il a besoin, viscéral, hein, de la visite de son ami Timothée.
On fait mention ailleurs de l'aïeul et de la mère de Timothée.
Alors là, on a ces mentions, voilà, de la grand-mère et de la mère de Timothée. Alors ça aussi, ça va dans ce sens-là. C'est que, si vous voulez, il y a effectivement... ça, c'est le verset... 5. Verset 5, 1-5, vous voyez. C'est que, si vous voulez, il y a... il y a différents liens, finalement, qui peuvent être comme des vecteurs entre nous, vecteurs de cette grâce de Dieu, finalement, de ce dépôt sacré, peut-être, hein, qui permet à Dieu de nous donner quelque chose de fondamental, d'essentiel. Il peut y avoir donc le lien du sang, hein. On le voit là, hein, la foi sans hypocrisie, une foi sincère, pure, au premier degré, quoi, hein, qui habite d'abord chez ta grand-mère Loïs, hein. Je sais pas, Loïs, c'est plus un prénom de garçon pour nous, peut-être, non, je sais pas. Enfin bon, c'est comme ça, c'était un nom de sa grand-mère, ou Eunice, sa mère, et comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est comme si les pommes tombaient pas loin du pommier, quoi, si vous voulez, comme on dit à la campagne, hein.
Mais elle les a connus, probablement.
Probablement, oui, je pense. Hein, oui, probablement, oui. Et il reconnaît, bon, les donc la force de cette transmission intergénérationnelle.
Et juste avant, je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres.
Oui. Donc lui-même, il dit que ses ancêtres, en 1-3, effectivement, lui ont transmis une conscience... une conscience pure. Alors, une conscience pure, c'est pas une notion morale, hein, je pense pas. C'est plutôt l'idée d'une conscience qui est unifiée, qui est pas
harmonieuse,
pleine de duplicité. C'est une conscience qui est assez unifiée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pense à rien d'autre, qu'on s'intéresse à rien d'autre, ou qu'on n'ait pas d'autres passions, d'autres amours, d'autres amitiés que celles de Dieu, et qu'on deviendrait pur spirituel. Justement, toute la lettre ne dit pas ça. Mais ça veut dire que, bon, il y a quand même des priorités qui sont faites. Par exemple, quand on dit priorité à la grâce de Dieu, hein, ça veut dire que dans nos relations avec nos amis, ça va être quelque chose qui va infuser, si vous voulez, dans notre façon d'être avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prendre plaisir à bien manger à table. Jésus, hein, on disait que c'était un mangeur et un buveur. On le critiquait pour ça. Donc on a le droit de prendre plaisir à un bon repas avec des amis, avec des bonnes choses à manger, et d'en rendre grâce à Dieu. Et puis d'avoir la joie de partager avec d'autres, vous voyez. Donc c'est plutôt cette conscience pure. Ça ne veut pas dire devenir comme un sort de pur esprit. Ça, ce serait plutôt grec, si vous voulez. Ou dans les façon de concevoir l'existence orientale, où il y a une sorte d'élévation de la personne dans le pur spirituel. Non, pour nous, c'est une théologie incarnée. C'est-à-dire que cet esprit, cette grâce de Dieu, vient infuser dans l'existence quotidienne, mais vient pas, la couper... de cet enracinement dans ce monde. Ça permet de le vivre autrement, si vous voulez. Donc effectivement, le plaisir, par exemple, de bien manger, ça ne va pas devenir le but de notre vie. Mais on va pouvoir le vivre...
sainement.
Donc ça apprend la politesse, ça domestique. Si vous voulez, souvent l'image qu'on a dans la Bible, c'est l'animal sauvage que nous sommes aussi, qui est domestiqué. C'est un lion qui va être avec l'agneau et qui va brouter de la paille, qui va devenir végétarien.
Courtois.
Mais en même temps, dans cet Ésaïe 11, si vous voulez, qui est bien connu, On sait bien que ce n'est pas possible. Donc, c'est l'idée que le lion qui est en nous va se réconcilier avec l'anneau qui est en nous. Et que, vous voyez, ce n'est pas supprimer tous les lions. C'est apprendre au lion la politesse. C'est apprendre à nos désirs d'être gouvernés par l'esprit et qu'ils soient orientés vers le bien. Voilà. Et donc... Donc il y a ce lien intergénérationnel qui est quelque chose qui est fort. Il y a aussi les écritures dont je vous parlais, hein, qui viennent des générations passées et qui sont des témoignages des générations passées. En même temps, on ne l'appelle pas la parole de Dieu, on l'appelle les écritures. Donc les écritures, c'est écrit par des hommes. C'est comme le témoignage de Loïs ou de Nice ou de ses ancêtres. Il en fait, il les évangélise, si vous voulez. Hein.
Ce serait bien de le lire maintenant.
Je ne sais pas si on a le temps de lire tout ça. Vous le lirez en devoir de vacances. Hein.
Il y aura interrogation écrite.
Il y aura interrogation écrite. Mais voyez les écritures. Hein, il en parle à propos du... Où est-ce que c'est les écritures, hein? C'est 3.15. Hein. 3.15. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Donc les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça peut donner une sagesse, ça peut donner à réfléchir, ça peut... Mais bon, ensuite, ça permet d'être... peut-être de s'ouvrir personnellement à la relation de Dieu, à Dieu. Et c'est Dieu directement par son esprit qui enseigne toutes choses, vous voyez, dans le truc. L'écriture, c'est une préparation. C'est pas... Voilà. Alors le deuxième lien, c'est peut-être un lien de compassion et de miséricorde. On le voit dans quand il appelle « bien-aimé ». Il appelle Timothée « bien-aimé ». Mon enfant bien-aimé, il y a cette affection, vous voyez. Souviens-toi, il y a l'histoire de la mémoire, il y a ces larmes, vous voyez, il y a le souvenir affectueux, il y a la pensée, il y a la présence de l'autre, il y a le soutien, il y a le désir de voir l'autre, il y a de le revoir physiquement, pas simplement par la pensée. Plutôt que l'abandon, la trahison, être isolé, éloigné, abandonné, vous voyez. Donc ça, c'est le deuxième lien, c'est ce lien de compassion, d'amitié, de pensée mutuelle, affectueuse. Et ça, je crois que c'est très important. On le voit dans Paul, dans l'image qu'il donne du corps, si vous voulez. Donc c'est 1 Corinthiens 12, par exemple, hein, c'est bien connu, ça précède le fameux 1 Corinthiens 13, où il parle de la foi, de l'espérance et l'amour, avec l'amour qui est le plus grand, l'agapé. Il dit l'humanité est comme un corps dont nous sommes chacun des membres, avec chacun sa particularité unique, sa vocation unique, et en disant l'œil ne peut pas dire à la main parce que tu n'es pas un œil, tu ne fais pas partie du corps. Il y a différents. On a tous notre vocation, nos charismes particuliers. Et donc finalement, c'est l'esprit qui fait l'unité du corps. Donc c'est cette action de Dieu, cette visite de Dieu peut-être dans notre être, par la foi, cette présence de Dieu qui nous enseigne à l'intérieur de nous-mêmes, par notre conscience, qui va coordonner le travail entre les uns et les autres, répartir la vocation, s'il y en a un qui ne remplit pas son boulot, comme dans le corps d'ailleurs, hein. S'il y a un neurone qui est grillé, un vaisseau qui a sauté, la circulation va se rétablir par d'autres vaisseaux, ça me paraît complètement surréaliste, mais c'est comme ça. C'est la même chose, Dieu peut-être par son esprit va permettre de coordonner. S'il y en a un qui ne fait pas face tout à fait à son boulot, à sa vocation, il y en a un autre qui va essayer de pallier. Mais il y a alors ça, c'est l'esprit qui fait l'unité, mais il y a aussi la compassion qui est comme des ligaments entre les personnes. Dans cet 1 Corinthiens 12 que vous pourrez lire aussi en devoir de vacances, hein. Et cette compassion, c'est ce qui tient l'attachement entre nous, voyez, qu'on voit ici si présent, si vous voulez, l'attachement entre nous Et les ligaments, c'est une bonne image, si vous voulez, ces tendons hein, entre les... ces ligaments, je pense, ça s'appelle, hein, mais je ne sais pas comment. Ouais. Les tendons, c'est peut-être autre chose. Hein, c'est ce que... Enfin, je sais. Il faut demander aux spécialistes d'anatomie. Hein. Mais enfin, bref, ce qui tient les articulations entre elles, en même temps, ça tient fermement... le fémur avec le tibia et le péroné, espérons.
Hein. Espérons, oui.
Mais en même temps, il y a une souplesse hein, qui laisse l'autre libre un peu, vous voyez. Ben, sinon, on marche avec une jambe de bois. Donc l'attachement, cette compassion, c'est en même temps, il y a le vrai respect de l'autre qui lui laisse la liberté de sa vocation, de sa personnalité, de ce qu'il est lui-même, de ses dons propres, personnels, donnés par Dieu. Et en même temps, l'attachement reste. Et c'est difficile, vous voyez, parce que c'est un attachement qui laisse l'autre libre d'être différent de ce qu'il était hier. Et c'est pas évident, vous voyez. Mais c'est pour ça que c'est si fondamental. Alors, d'ailleurs, bon, je l'ai déjà dit peut-être mille fois, mais... C'est que la bénédiction, c'est en hébreu, c'est beruka, c'est comme la baraka en arabe. Hein. C'est le même mot que le genou, en fait. C'est le même mot que le genou, et effectivement c'est beau parce que le genou c'est cette articulation qui permet de marcher, qui est à la fois un attachement et à la fois une liberté à donner à l'autre, si vous voulez. Donc c'est pour ça que Dieu nous bénit et que nous on bénit Dieu, ou que Dieu hein, on rend grâce à Dieu et que Dieu nous donne sa grâce. Donc c'est cette cet échange de grâce, échange de bénédiction qui fait finalement ce lien avec Dieu et le lien entre nous est à cette image. Donc il y a, si vous voulez, ce que Dieu donne, c'est décalqué, ça peut être décalqué sur notre relation entre nous et on le fait pour le transmettre, vous voyez, à nos enfants, si on en a, ou autour de nous, que ça fasse tache d'huile, vous voyez, et qu'on garde ce dépôt, et qu'on puisse le transmettre autour de nous. Donc c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour, on dit que c'est des vertus théologales. C'est pas juste des vertus morales. Théologales, ça veut dire que c'est les vertus de Dieu lui-même, c'est l'être même, la façon même dont Dieu est. Hein, il dit c'est sa nature. Il peut pas faire autrement. Dans son petit poème rigolo, voyez, il ne peut se renier lui-même. La grâce de Dieu, ses dons, la grâce, la miséricorde et la paix, c'est la façon d'être même de Dieu. Donc il nous propose de vivre de ça, de cette façon d'être de Dieu lui-même finalement, et que ça fasse tache d'huile autour de nous. Donc on est à la fois, on en est bénéficiaire, à la fois on en est les vecteurs, mutuellement, dans un sens. Donc c'est pour ça que rendre visite, Paul en a tellement besoin qu'on lui rende visite, alors que lui-même est le spécialiste de la visite. Il passe de courir d'église en église, d'envoyer des lettres, de penser aux gens. Mais lui-même en a besoin aussi. Et je pense que c'est pareil pour Dieu. Dieu est le spécialiste pour nous rendre visite. Et en même temps, on peut, par la prière, pour rendre grâce, ben lui rendre visite aussi. Donc voilà cette petite lettre intime de Paul à Timothée. Est-ce que vous avez des petites remarques avant de vous laisser poursuivre hein, ceux qui devraient rejoindre leur travail peuvent... parti, s'ils le veulent, hein, parce qu'il est pile la demi. Hein.
Ça montre bien l'importance finalement d'une communauté pour prier.
C'est ça.
On ne peut pas prier tout seul. Enfin, si, on peut prier tout seul, mais...
Mais ça aide. On a quand même besoin des autres.
On a besoin des autres.
Oui, c'est intéressant comme remarque. Oui. C'est intéressant.
On ne peut pas... Enfin, je ne sais pas, quand on est chrétien, on a besoin...
Ça aide, oui.
Ça aide, hein.
Moi, je le vois pour les baptêmes d'adultes. Souvent, les personnes, elles ont cherché toutes seules dans leur coin pendant 3 ans, 4 ans. Et puis, lu la Bible, etc. Puis, bon, même si ça, c'est quand même, ça reste l'essentiel. Cette recherche personnelle, cette prière intime, cette liberté de se faire, que Dieu parle à l'intérieur de nous-mêmes, c'est quand même l'essentiel. Mais quand même,
s'il n'y a pas les autres après pour porter.
Eh bien, quand même, ça nourrit, ça ranime la flamme, ça, voilà. Oui, oui, tout à fait.
C'est aussi que Paul, il a. En fait, il a très peur de mourir, et que sa mission ne continue pas.
Ben oui.
Il a besoin que les autres lui confirment bien qu'ils continueront.
Ben oui, c'est ça, oui.
Ce qu'il a fait.
Et oui.
Il ne va pas partir comme ça.
Ben oui.
Que tout, soit, enfin,
que tout retombe comme une crêpe, oui.
Pour rien, quoi.
Oui, exactement. Oui, ça c'est vrai. Oui. Ben oui.
Est-ce qu'il reste vite?
Oui.
Vous me faisiez allusion au fait qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de crucifix dans les oratoires.
Dans les temples protestants, oui.
Voilà, il y avait quoi
Il y avait pour seule décoration de la parole biblique, en fait. Donc il y avait des versets. Alors même la Bible ouverte, c'est relativement récent, c'est 1820-1830 en fait, quand les protestants vont vouloir diffuser l'écriture au maximum partout. C'est au même moment qu'on a supprimé dans les Bibles protestantes les écrits deutérocanoniques ou apocryphes. Vous voyez, les apocryphes de l'Ancien Testament, ils ont été enlevés à ce moment-là de la Bible protestante pour que la Bible coûte moins cher et la diffuser largement, alors qu'avant ça y était. Non, ce qui était comme décoration. D'ailleurs, au centre du temple, il n'y a pas la Bible, contrairement à ce que peuvent dire certains. Il n'y a rien, il y a un vide, en fait, qui représente justement ce dont parle ici, c'est Dieu, finalement, hein, le Christ. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux, sous le Saint-Esprit, l'invisible de Dieu qui est l'Esprit-Saint, qui est le lien entre tous. Mais ça, l'Esprit Saint, on ne peut pas le chosifier. Si vous voulez. Donc, il y a, en centre d'un temple protestant, il y a du vide, en fait. Un vide sacré. Et les gens sont autour et se font face, vous voyez. Alors, il y avait des versets bibliques. Donc, il y avait, on le voit dans les temples anciens, il y avait souvent les 10 commandements, qui, à mon avis, méritent d'être découverts, parce que ne pas tuer son prochain, ça paraît évident, mais enfin bon, c'est vrai que ça mérite d'être appliqué dans sa vie courante. Pas simplement le trucider avec des balles de Kalachnikov, mais en parole, en acte, en oubli, en trahison, voilà, enfin bref. Donc il y avait souvent le sommaire de la loi, les 10 commandements et le sommaire de la loi, ce résumé que donne Jésus, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Il y avait parfois le Notre Père, plus rarement il y avait le credo quand même, le symbole des apôtres. Plus rarement parce que c'est pas biblique, hein, c'est plutôt du 4e, 5e siècle. Hein. Et puis il y avait souvent un verset qui était choisi par la paroisse et qui était mis un peu en exergue.
Au temple du Saint-Esprit, dans le 8e, c'est « Je suis la voie, la vérité, la vie ».
La voie, la vérité, la vie. Là, il y a un verset donc, de l'Épître aux Romains. Hein. Et puis dans la grande sacristie, il y a un verset qui me fait pas mal marrer. Il y a marqué « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru ». Oui, ça reste prudent. Quoi. C'est toujours ça rigolo. « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru ». Bon, pour la suite, on verra, mais pour l'instant, c'est comme le parachutiste qui a oublié son parachute à la maison, vous voyez. Il dit « Jusqu'ici, tout va bien ».
Est-ce que vous avez des textes encore de ce que j'ai raté la
vie ? Non.
Saint-Barthélemy,
donc ils avaient traversé la Saint-Barthélemy, ils avaient traversé, etc. Et puis donc ça faut s'entendre, voilà, effectivement. Cette foi, dans le doute, n'est pas tout à fait absent non plus, quoi, si vous voulez. Mais enfin voilà, donc c'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu cette expérience, c'était une expérience vraiment bouleversante, je crois. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, la science était triomphante. On se disait avec la science, bon, on va tout comprendre, tout savoir. J'ai... Un tout petit cheveu près, et c'est là que voilà, Einstein va, avec l'aide de Poincaré, quand même, vont développer la relativité générale, montrant que c'est plus complexe que ce qui semblait penser à la fin du 19e, vous voyez, au début du 20e. Mais on disait, voilà, maintenant, l'humanité va devenir adulte, intelligente, etc. Puis badaboum, il y a cette horreur de la Première Guerre mondiale, avec des guerres fratricides épouvantables, des millions de morts, vraiment stupides.
Avec l'an 2000, on attendait. Si avec l'an 2000...
On espérait peut-être. Ouais. Et puis donc, ça va être important. Donc, par exemple, il y a beaucoup de théologiens comme Paul Tillich, comme Karl Barth, comme d'autres, hein, ça va être une expérience de, d'humilité de l'humanité, finalement, en se disant, ben, on croyait avoir atteint un progrès, et ben, en fait, on est quand même un peu nul, quoi.
Oui.
Et donc, du coup, ils vont s'identifier à cette croix, à cette souffrance, et puis mettre des croix dans les temples.
Il me semble qu'au temple de Genève, il n'y en a pas de croix.
Ben, c'est possible.
Oui, oui,
alors, moi, j'étais à un moment, j'étais pasteur à Nîmes. Et il y avait, c'est rigolo, c'était vraiment la concorde. Il y avait des pasteurs qui étaient, qu'on dit, orthodoxes, c'est-à-dire qui respectent vraiment le dogme bien classique de l'Église, et puis des pasteurs libéraux qui sont plus progressistes, qui relativisent la doctrine pour privilégier plutôt la relation personnelle à Dieu, l'inspiration. Et donc sur la Bible, il y avait une croix qui était amovible. Donc quand c'était un pasteur orthodoxe qui prêchait, hop, il mettait la croix, et puis quand c'était un pasteur libéral, hop, il enlevait la croix. Oui. Donc c'est comme ça. Voilà, bon, bah, écoutez, bonne route. Vous aurez la joie de découvrir donc le pasteur Cadou, qui est donc le futur pasteur de l'oratoire avec moi-même l'année prochaine, donc à partir de mercredi prochain, puis les 5 mercredis d'août, sur toujours ce thème de rendre visite, donc avec l'évangile selon Luc, la visitation, donc c'est Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth, ou alors, je pense aussi, voilà, l'ange qui rend visite à Marie. Voilà, donc bon mercredi à vous tous.
Merci.